Alors voilà cette fratrie, ces 12 frères de 4 mères différentes. Ces 12 frères, c'est le peuple de Dieu. Ces 12 frères forment le peuple de Dieu. Ces 12 frères sont les futures 12 tribus d'Israël. Ce sont leurs 12 noms qui sont écrits éternellement sur les portes du paradis, comme dit le livre de l'Apocalypse. Et si Jésus a choisi 12 apôtres plus tard, c'est pour faire une continuité avec le peuple de Dieu aujourd'hui et celui d'autrefois. Alors ces 12 frères, ce sont nos ancêtres. Mais jusque-là, on a du mal à les aimer, en tout cas 10 parmi eux. Ces fils d'Israël, ils sont jaloux, ils sont menteurs, ils sont méchants, ils sont infidèles, pas comme nous bien sûr. Mais Dieu va les rattraper. Et ce chapitre parle de leur changement, un changement d'attitude, un éveil de conscience. Et c'est ça la bonne nouvelle de la Bible, cette possibilité de changement. La science moderne dit que nous sommes le produit de nos gènes et on est comme on est. Si vous avez un défaut de personnalité, un défaut de comportement, si vous agissez mal, eh bien c'est vos gènes, c'est figé. Les carottes sont cuites. Mais la Bible offre une meilleure espérance. Et si vous regardez notamment dans ce livre de la Genèse, on trouve un grand nombre de personnages qui ne sont pas pareils, qui ne sont pas le même à la fin de leur vie qu'au début. Et on voit que Dieu agit dans leur vie pour les changer, comme il veut le faire pour vous et pour moi. Et dans ce chapitre, c'est Joseph qui devient l'instrument de Dieu pour provoquer cette transformation, pour éveiller la conscience et changer l'attitude du cœur, en tout cas un début de changement. Ses frères ne le savent pas encore, mais ils ont un ami fidèle et tendre sur le trône. C'est leur frère Joseph. Le Seigneur Joseph, il est sévère en ses exigences dans ce passage, mais il est riche en son amour. Il veut voir s'ils sont vrais et sincères. Mais il va exaucer leur prière, comme nous venons de chanter. Et nous pouvons apprendre, nous le peuple de Dieu aujourd'hui, que Dieu agit ainsi. Dans sa providence, Dieu agit sagement dans notre vie et tout au long de notre vie pour nous changer et nous transformer. Alors ce matin, j'aimerais juste voir deux points, des signes de sagesse chez le Seigneur. Et puis, des signes de changement chez les frères. Voyons tout d'abord les signes de bonté et de sagesse chez le Seigneur. On peut voir les actions de Joseph et immédiatement, on se demande si quand même il n'est pas en train de leur faire payer un peu, se venger, s'il est motivé par du ressentiment, de la vengeance. Verset 7 dit qu'il feignit d'être un étranger pour eux et leur parla durement. Et pour 3 chapitres, il va garder ce rôle d'un seigneur sévère. Et certains commentaires même disent, voilà, il agit pour leur faire payer tout le mal qu'il lui en fait. Je pense que si nous soupçonnons que Joseph agit ainsi, c'est souvent ce que nous, on aimerait faire ou on aurait fait à sa place. Il y a ce grand ouvrage de la littérature française, Le Comte de Monte Cristo, qui se modèle d'après l'histoire de Joseph, en quelque sorte. Ce Comte de Monte Cristo qui arrive haut placé dans la société parisienne, très riche, tout puissant. Personne ne reconnaît en lui l'ancien Edmond Dantès, prisonnier, qui a été accusé à tort par ses amis. Et maintenant qu'il est tout riche et tout puissant, lui, il va se venger. Et c'est ça tout l'attrait de l'histoire. Il va profiter de sa position pour vraiment faire payer à ces méchants qui lui ont pourri sa vie pendant des années en prison. Mais la grande différence entre le comte de Monte Cristo et Joseph, c'est que oui, le comte, il agit en tant que justicier, en tant que vengeur. Ça nous interpelle quand même, on veut la justice. Mais Joseph, ce n'est pas la vengeance qui l'amène. En tout cas, c'est ce que je vous suggère ce matin. Et que Joseph, il n'est pas motivé par le ressentiment ou la haine dans ses actions envers ses frères. En réalité, ce que nous avons ici, c'est une main de velours dans un gant de fer. Une main de velours dans un gant de fer, et il agit ainsi envers eux. Il y a quelques indices où on voit quand même le grand amour, la grande affection que Joseph a pour ses frères. Il y a notamment verset 24, il doit sortir pour pleurer, tellement il est ému de les voir, et ça va arriver au moins deux autres fois. Il va pleurer d'amour, d'émotion pour ses frères. En verset 25, il remet leur argent, il leur donne d'amples provisions. Ça aussi, il signe finalement de sa bonté envers eux. Donc gardez en tête qu'au fond, Joseph aime ses frères. Alors comment expliquer ces actions, cette dureté, cette mise en prison, cette feinte? Je pense qu'en tant que seigneur sage qu'est Joseph, il conçoit un plan qui va éveiller leur conscience et produire ou bien révéler un changement d'attitude, un changement de cœur chez ses frères. Et en cela, il agit pour leur bien. Quand j'essaie d'imaginer la scène, le moment où ses frères entrent dans la pièce, je ne sais pas comment ça s'est présenté, il y a Joseph, haut fonctionnaire, premier ministre, et il faut faire les demandes de blé auprès de lui. Et donc, visiblement, chacun passe devant, je ne sais pas si c'est une commission, ou en tout cas, Joseph siège, et il est reconnu. Dit le verset, à quel moment, je ne sais pas, au moment où ils entrent dans la pièce, ou bien peut-être c'est au moment où ils se relèvent, ils se prosternent face contre terre, dit le verset, et puis ils se relèvent, et peut-être ils les voient face à face, ils les reconnaissent. Mais rappelez-vous que plus de 20 ans sont passés depuis qu'ils se sont vus, 20 ans, et certainement Joseph ne les attendait pas. Il avait oublié, je pense, ses rêves. D'ailleurs, le verset dit plus tard que c'est là où il se souvient de ses rêves. Il avait appelé son premier-né, son aîné, il avait oublié un nom qui voulait dire « Dieu m'a fait oublier toute la maison de mon père ». Donc après 20 ans, dans un pays différent, une culture différente, une langue différente, il s'attendait, il guettait pas à la porte tous les jours pour voir si les frères venaient. Donc ça devait être un choc pour lui, une surprise pour lui. Et là, il doit décider que faire, sur le moment. Qu'est-ce que vous auriez fait là, en voyant ses frères? Salut les gars! Ah, ça fait un bail. Ah, il ne dit pas ça. Oh, il aurait pu être vraiment méchant. Ah, je vous avais dit, dégagez, je ne veux pas vous aider. Vous m'avez fait tellement souffrir, je ne veux même pas vous voir. Sortez immédiatement. Il aurait pu faire ça. La chose, c'est qu'il ne voit pas Benjamin. Détail intéressant, ils sont 12 frères. Benjamin, si vous regardez, il est né avant que Joseph ne parte en Égypte. Je pense que Joseph a pu connaître son petit frère Benjamin. Et Benjamin n'est pas là, ils sont 10 sans Benjamin. Et là, la question se pose, où en sont ses frères par rapport à leur jalousie, leur haine? Est-ce qu'ils ont fait à Benjamin ce qu'ils m'ont fait? Il ne sait pas encore. Est-ce qu'il fonctionne toujours pareil? Même Jacob, on apprend dans les premiers versets, il n'osait pas envoyer Benjamin avec ses 10 frères dans la crainte qu'il lui arrive quelque malheur. Et à la fin, il dit « Vous me privez de mes enfants ». Donc quelque part, Joseph, est-ce qu'il soupçonne que ses frères avaient un rôle dans la disparition de Joseph? En tout cas, Joseph ne sait pas où en sont ses frères par rapport à toutes ces questions. Visiblement, tout n'est pas réglé. L'absence de Benjamin montre que tout n'est pas réglé. Alors Joseph, il doit réfléchir rapidement à l'intérieur, savoir comment faire, mais on connaît Joseph, ce n'est pas quelqu'un qui manque d'idées. Je pense qu'il faut classer Joseph parmi les grands sages de la Bible, Salomon, Daniel. On avait vu dans le chapitre précédent que sur l'improviste, il a proposé un programme politique et économique pour les deux septennats à venir, et a été nommé premier ministre sur le champ. Tout le monde est d'accord qu'on ne trouve pas un homme plus sage que cet homme. Alors là, sur le moment, il réfléchit, il conçoit un plan pour voir si ses frères sont vrais et sincères. Et ce plan, c'est de les traiter d'espions, de les mettre en prison. D'abord, en verset 16, l'idée, c'est de mettre tous en prison et un par, chercher l'autre frère, puis changement de programme, 3 jours plus tard, vous partez tous et vous laissez un en prison. Mais ce temps en prison, ces 3 jours en prison, dans le trou en quelque sorte, et de voir un frère enchaîné, amené devant leurs yeux, ça c'est du déjà vu, non? Et en fait, Joseph, en mettant tout ça en place, il touche en plein dans le mille. Et justement, en verset 21, ça ne manque pas de les rappeler la manière qu'ils avaient enchaîné leur frère 20 ans auparavant et l'ont mis dans un trou et l'ont envoyé en esclavage. Donc Joseph est en train de concevoir les circonstances et les détails pour secouer leur souvenir. Et ça marche à merveille. Il fait pareil, notamment la présence de l'argent dans leur sac. Normalement, on payait pour le blé, et ce qu'ils ont fait. Et puis, ils retrouvent l'argent dans leur sac. Rappelez-vous qu'ils ont vendu Joseph pour 20 pièces d'argent. Peut-être qu'ils se sont tous distribués et mis dans leur sac à l'époque. Alors, on ne dit pas le montant qu'ils payaient pour le blé, mais la première chose, en tout cas, à laquelle ils pensent en voyant l'argent dans leur sac, c'est de se dire « Dieu nous rattrape pour ce qu'on a fait ». Versets 28 et 35. Et une fois arrivés à la maison avec Jacob, tous les frères découvrent l'argent dans leur sac et la réaction pareille, ils eurent peur. Tout le monde pense au passé. Alors, je pense que c'est des signes de sagesse chez le Seigneur, tout ça. Et derrière Joseph, eux, ils ont bien fait de voir la main de Dieu. Vous savez, c'est terrible, c'est fort, cette conscience coupable avec laquelle on peut vivre. Ça fait que toute circonstance malheureuse, toute circonstance bizarre, toute circonstance désagréable, on ne peut pas s'empêcher de penser tout de suite à des choses qu'on a fait dans le passé et se dire « Dieu est contre moi ». Mais ici, ce n'est pas que Dieu était contre eux, Dieu était pour eux, en train de les rattraper, de les changer. C'était plutôt une main de velours dans un gant de fer. Vous savez, on dit parfois que c'est le mélange du froid de l'hiver et la chaleur de l'été, le gel et le dégel qui travaille la terre, qui permet de briser la terre, qui permet de briser les semences pour que ça pousse. Et c'est un peu ce que Joseph fait ici, il y a cette dureté. Mais aussi cet amour qui va briser, ouvrir les cœurs. Ne devons-nous pas reconnaître que Dieu agit ainsi dans nos vies, parfois aussi? Vous le savez ou vous ne le savez pas, mais Dieu sagement a conçu un plan pour vous, rempli de toutes sortes de circonstances, de personnes, de rencontres. Nous disons dans toute l'histoire de Joseph que c'est sa providence, ça montre la providence de Dieu. Et nous disons que la providence de Dieu, c'est la manière que Dieu dispose toutes choses, les bonnes choses, les mauvaises choses, pour conduire l'univers vers la réussite et la gloire de Dieu. Conduire toutes choses vers une fin heureuse. Et pour Dieu, même une famine fait partie de sa providence. On pense souvent à la manière que Dieu pourvoit dans sa providence. Mais une famine, où Dieu prive ces gens de provision, est aussi sa providence pour les changer et les conduire. Alors, comment Dieu agit-il dans votre vie en ce moment pour vous perfectionner, pour vous changer, pour vous ramener, vous rattraper, pour vous rendre pauvre en esprit, pour ensuite vous bénir, comme nous avons dit ce matin? Qu'est-ce qu'il fait pour vous libérer peut-être d'une conscience coupable? Il est sage et ce qu'il place dans votre vie et fait partie de sa sagesse et sa bonté. Dernière remarque sur ce point, c'est que Joseph ici, il joue vraiment le rôle de Dieu, le rôle de Jésus, ce Seigneur qui, sur le trône, après avoir été rejeté, mis dans le trou, il est élevé en gloire et domine sur tout, comme nous avons aussi chanté ce matin. Et donc Joseph joue vraiment le rôle de Jésus. Et à ce titre, on ne peut pas nous se permettre d'agir envers nos frères et sœurs de cette manière, en disant « je vais être moi dur et désagréable envers mes frères et sœurs pour voir s'ils portent les fruits du Saint-Esprit, pour voir si Dieu opère dans leur vie ». Ça, Ça, c'est que Dieu qui peut faire ça. C'est que Dieu qui a les motivations parfaites et pures et qui connaît les cœurs. Et non seulement il peut placer des circonstances désagréables de notre vie, mais de l'intérieur, il peut produire l'obéissance et l'amour, ce que nous, hommes, nous ne pouvons pas faire. Donc, c'est pas à nous d'agir comme Joseph pour changer nos frères et sœurs, mais c'est Dieu. Voyons maintenant les signes de changement chez les frères. Le plan de Joseph porte rapidement des fruits et nous commençons à voir des signes de changement qui nous encouragent. Et un premier changement, c'est en verset 21. Ils se disent alors l'un à l'autre, « Oui, nous avons été coupables. » Ça, c'est un signe de changement d'attitude et de cœur que Dieu veut produire. C'est qu'on passe de l'auto-justification, l'autosuffisance, à l'aveu, à la culpabilité, à cette pauvreté en esprit. Oui, nous avons été coupables. Pas « oui, on a fait ça, mais c'était la faute de papa ». Oui, mais notre père était polygame, on a été élevé dans des mauvaises circonstances, donc ce n'est pas notre faute. Oui, on a fait ça, mais Joseph nous a provoqués. Il n'avait qu'à mettre son manteau multicolore, comme ça. Une des lacunes de la psychologie moderne, c'est de déresponsabiliser les gens. On apprend à se victimiser et tous nos comportements peuvent s'expliquer par des problèmes du passé ou une mauvaise éducation familiale. Ce qui peut être une vérité. Et ses frères, c'est vrai, il y avait des lacunes dans la famille, mais ça ne justifie pas leur pensée de meurtre et ce qu'ils ont fait à Joseph. Et enfin, ils sont prêts à dire oui, nous avons été coupables. Donc ça, c'est un signe d'un grand changement, l'auto-justification qui est remplacée par l'aveu, la repentance. Dans ce verset 21, nous apprenons pour la première fois que Joseph, au moment où ils l'ont mis dans le trou, au moment où il le vendait en esclavage, à ce moment, Joseph a crié, a supplié, a demandé grâce à ses frères de ne pas faire ça. Et que l'auteur mette des détails ici, 20 ans plus tard, parce que c'est la première fois qu'on apprend ça, au moment où ils l'ont mis dans le trou, dans les chapitres précédents, on ne savait pas que Joseph criait, suppliait, demandait grâce. Que l'auteur mette des détails ici, ça montre qu'à l'époque, il ne pouvait pas entendre ses cris. Il ne voulait pas entendre ses cris. Il ne pouvait pas les entendre. Et maintenant, il commence à saisir. Il y a des choses peut-être que Dieu veut vous dire, mais vous ne voulez pas les entendre. Vous ne pouvez pas les entendre parce que vous êtes dans l'auto-justification. On se rappelle parfois des choses qu'un parent ou un frère nous avait dit à l'époque. Et on dit, ah oui, à l'époque, je n'écoutais pas, je ne pouvais pas l'entendre, je ne voulais pas l'entendre. Et maintenant, je vois qu'il avait raison. C'est ainsi que nous voyons des signes de changement, comme nous sommes prêts à écouter ce que Dieu a à nous dire. Un autre changement, un autre signe de changement, je dirais, c'est le ressentiment, la jalousie qui cède place à l'amour fraternel. Encore en verset 21. Ils disent, oui, nous avons été coupables envers notre frère. C'est nouveau qu'ils parlent comme ça. Avant Joseph, ils ne disaient pas souvent, c'est notre frère. Ils le voyaient venir, ils disaient, oh, ce faiseur de songes. Ils l'appelaient toujours comme ça, le faiseur de songes. Et quand ils ont rapporté le manteau qu'ils avaient truqué, trafiqué pour faire croire à leur père que Joseph était mort, ils ont dit, reconnais, c'est le manteau de ton fils, si c'est le manteau de ton fils, ton fils. Le faiseur de songes, ton fils. Mais là, c'est notre frère. C'est toujours. Reste une question dans tout ça. Sont-ils toujours jaloux envers Benjamin? Parce que Benjamin, c'est le même père et la même mère que Joseph. Et donc, et Jacob avait cette préférence pour Rachel. Alors Joseph va leur donner l'occasion de montrer s'ils sont toujours jaloux, toujours motivés par l'égoïsme, cette recherche de prééminence parmi les frères, ou bien s'ils agissent par amour fraternel. Et c'est pour ça qu'il les envoie ramener Benjamin. Le projet, c'est peut-être un peu risqué pour Benjamin, s'ils vont faire à Benjamin ce qu'ils ont fait à Joseph, mais Joseph discerne déjà, je pense, un certain changement. Et tout ça, c'est entre les mains de Dieu. Et là, on voit dans, déjà l'attitude des frères que c'est pas pareil. Les deux aînés, Ruben dans ce chapitre et puis Judas dans le chapitre suivant, cette fois-ci, ils sont prêts à défendre leur petit frère. Ils sont prêts à défendre Benjamin, ce qu'ils ne voulaient pas faire pour Joseph. À la fin du chapitre, c'est Ruben qui dit à son père, « Tu feras mourir mes deux fils si je ne te ramène pas Benjamin. » Déjà, il montre qu'il se soucie de Benjamin. C'est pas sûr que la proposition-là est très très réfléchie. Je ne sais pas si Jacob trouvera de la consolation à tuer ses deux petits-fils en échange d'avoir perdu un autre. Et ça ne va rien régler d'encore faire mourir deux personnes. Mais on voit un changement chez Ruben. Et puis c'est Judas qui pousse les choses encore loin dans le chapitre suivant. Et là, il se montre peut-être lui un peu le chef de la bande, le chef des frères qui sera plus tard. Et c'est lui qui dit, écoute papa, laisse-nous prendre Benjamin et je répondrai de lui. Je prendrai soin de lui. Rien ne va lui arriver. Et sinon, ce serait moi qui suis coupable. Donc là encore, on voit signe de changement. Là, le ressentiment est remplacé par l'amour fraternel. Et ça, c'est aussi des signes de changement dans un cœur qui s'approche à Dieu. C'est des signes de repentance pour nous aussi quand on quitte ces schémas d'auto-justification et qu'on est prêt à reconnaître notre pauvreté d'esprit, on est prêt à reconnaître notre culpabilité devant Dieu. Et puis l'autre signe de changement, c'est quand on commence à aimer les frères et au lieu de se jalouser, au lieu de se concurrencer, au lieu de toujours vouloir la première place, mais qu'on met l'autre avant et qu'on prend soin de lui. C'est ça la vie d'Église et c'est des signes de changement qu'on avance dans la vie chrétienne. Voyez, la bonne nouvelle ici, c'est qu'on ne peut pas échapper à Dieu quand Dieu veut nous rattraper, quand Dieu veut faire de nous son peuple. On ne peut pas lui échapper. Et son projet de nous changer, il va le mettre en place, puisqu'il est tout puissant, il est tout sage. Il va agencer toutes circonstances dans cet univers pour nous transformer et remplacer la haine avec l'amour, remplacer l'égoïsme par le don de soi, remplacer nos excuses et notre prétendue innocence par une humilité et une repentance. Dieu saura nous retrouver, saura nous avoir. Joseph, il est dit que Joseph a été envoyé en Égypte pour sauver ses frères. Et de la même manière, Jésus a été l'envoyé de Dieu pour nous sauver, pour nous avoir. Et Dieu nous a envoyé Jésus, il nous a envoyé l'Évangile pour nous rattraper, pour nous changer. Et le jour où je découvre que Jésus est mort pour mes péchés, là, c'est vrai, ça peut sembler un peu dur comme message, Jésus est mort pour tes péchés, donc tu dois les avouer. Mais quand je comprends que Jésus est mort pour mes péchés, ça me libère et je peux reconnaître mes défauts. Je peux prendre responsabilité, mais savoir aussi que le châtiment est tombé sur lui et qu'il est maintenant un ami fidèle et tendre. Donc quand j'accepte, quand je comprends cet évangile, je n'ai plus besoin de vivre constamment dans cette auto-justification parce que Jésus a payé pour moi. Et puis quand je comprends que Jésus m'a tellement aimé qu'il est venu, il n'a pas fait juste un trajet jusqu'en Égypte, mais il a quitté son ciel et est venu ici-bas. Il est mort, il est ressuscité. Il a fait ça pour moi, par amour. Quand je saisis ça, ça ne peut que me changer tout au long de ma vie. Et je peux aimer les autres comme Jésus m'a aimé. Vous voyez, nous sommes tous le projet de Dieu. Nous sommes son Église. Les changements sont en cours. Vous arrivez parfois sur un site web, ça dit c'est en cours de changement. Eh bien, c'est nous en permanence. Nous sommes le projet de Dieu. Il veut nous changer. Et nous pouvons le laisser agir dans notre vie, comme ses frères l'ont fait, on découvre que plus tard, on va découvrir tout l'amour, toute la bonté que Dieu a eue à notre faveur.